Merci beaucoup. Bonjour pour venir à cette dernière session. J'espère que le français n'est pas un problème parce que j'ai beaucoup entendu de sessions en anglais. Donc si ça vous gêne pas, je vais la faire en français cette session pour une fois. Donc le but de cette session, c'est tout ce qui concerne les apps sous Office. Donc c'est une session level 200. Vous verrez pas de code dans cette session, ou très peu, très très peu. C'est les level 300 où vous allez voir du code, moi, c'est ce que vous avez déjà vu aujourd'hui. Donc le but de cette session, c'est de vous montrer quelques nouvelles caractéristiques de Office Client, ainsi que quelques apps qui sont déjà disponibles, plus vous expliquer aussi comment développer ces apps. Donc l'agenda du jour, c'est d'abord qu'est-ce que c'est que le nouvel Office, pour ceux qui n'ont pas encore tout vu. Qu'est-ce qu'une Office Apps? Qu'est-ce qu'on entend sous le terme Apps? Vous avez déjà vu pas mal de sessions aujourd'hui. Vous avez probablement entendu le mot HTML environ 100 millions de fois. Vous allez encore l'entendre aujourd'hui. Donc ça, c'est une des nouvelles caractéristiques des applications Office. Je vais vous montrer quelques démos, quelques live démos sur Office 2013 avec quelques apps que j'utilise qui sont disponibles. Ensuite, pour les personnes qui n'ont jamais utilisé ça, on peut monitorer son Office. Et donc, surtout quand on utilise beaucoup d'applications, c'est toujours intéressant de savoir s'il y a quelque chose qui est lent, pourquoi. Donc là, il y a aussi des caractéristiques qui existent au niveau d'Office 2013, qui sont améliorées pour faire du monitoring sur les apps, etc. Et ensuite, en dernière partie, comment développer une apps? Quels sont les tools pour développer une apps dans Office? Alors aujourd'hui, quand on parle d'Office, je vais vous parler principalement de l'Office Client, parce que quand on parle chez Microsoft d'Office, c'est la plateforme Office, c'est-à-dire SharePoint, Office Client, etc., etc. On va se focuser aujourd'hui que sur la partie Client. SharePoint, il y avait déjà des sessions sur le développement SharePoint, donc là, on se focus plutôt sur tout ce qui est le client. Donc tout d'abord, au niveau de ce qu'on appelle le nouvel Office ou l'Office moderne, modern Office en anglais, il faut savoir que actuellement, si on regarde bien l'environnement des entreprises ou des particuliers, on a un changement ces dernières années, environ 3-4 ans, au niveau des devices. Des tonnes et des tonnes de devices sont arrivées sur le marché. Il y a certains concurrents, comme je vois ici une personne qui utilise un de ces appareils, qui existent sur le marché, qui sont très pratiques pour les particuliers, quelquefois moins pratiques pour les entreprises. J'ai déjà vu quelques cas de manquement de sécurité dans ces appareils. Mais on voit que le panel de devices augmente de plus en plus et va encore augmenter de plus en plus. Avec le nouveau Windows 8, vous allez voir une profusion d'appareils, de PC, de tablettes, de hybrides, vous pouvez détacher l'écran, etc., qui vont arriver sur les marchés dans les prochains mois. Vous en avez quelques-uns là-bas, il y en a quatre modèles, mais en réalité, il y en a plus d'une trentaine déjà qui sont disponibles. Donc on va voir beaucoup de ces appareils et entre autres une profusion d'apps. Alors avant, dans cette salle, il y avait une session sur les apps Windows 8. Alors bien sûr, il va y avoir des apps Windows 8, il va y avoir des apps pour Office, il va y avoir des apps pour SharePoint, il va y avoir des apps pour Outlook, etc., etc. Il va y avoir une profusion d'apps un peu partout. Et donc ces choses-là vont arriver sur le marché de plus en plus, ce qui va rendre un peu la vie des développeurs un peu plus complexe, entre guillemets. Parce qu'il va falloir sûrement développer pour toutes ces plateformes et on espère arriver à un consensus de développement. Surtout chez Microsoft, entre HTML5 et CSS 3, c'est les plateformes de développement qui sont en train de venir tout ensemble. C'est-à-dire qu'il y aura un peu moins de .NET que dans le passé, et on va beaucoup plus vers le HTML5 et le CSS. Pour les personnes qui ont vu des développements tout à l'heure en Windows 8, on voit sur Windows 8, sur la plateforme, l'environnement, le nouvel environnement de Windows, on voit aussi qu'il faut du HTML5 et du CSS, et sur Office, c'est exactement la même chose. Donc on voit différents devices qui arrivent sur le marché et une tendance pour beaucoup d'entreprises à se déplacer vers le cloud. Alors je sais qu'en Suisse, ils sont encore réticents. Surtout les banques. Elles seront en cours pendant une dizaine d'années. Mais après, vous allez voir que beaucoup, beaucoup d'entreprises vont aller automatiquement vers le cloud. Principalement pour réduire les coûts de l'informatique. Parce qu'on sait exactement dans le cloud combien on paye par personne, par jour ou par mois. Et ça, c'est un fait qui ne bouge pas, quel que soit le cloud que vous allez. Et bien sûr, dans le cloud, on va avoir des nouvelles features. Demain, d'ailleurs, il y a une session là-dessus pour les IT pros, ce qu'on appelle Office on Demand, c'est-à-dire l'installation d'Office en 3 minutes, entre guillemets. C'est-à-dire, vous pouvez, entre le moment où vous cliquez pour installer Office et le moment où vous l'utilisez, il y a à peu près 3 minutes. Donc ça, c'est des nouveaux services qui arrivent sur le marché. Et entre autres, dans le cloud de Office 365, version 2013, il y a ces informations-là. Différentes applications vont exister aussi pour le cloud. Donc vous allez pouvoir étendre votre cloud avec des applications. Actuellement, dans la version actuelle du cloud, ce n'est pas évident. Dans la prochaine version, on va pouvoir faire ce principe d'apps sur le cloud aussi. Donc ça, c'est des choses que vous allez voir au fur et à mesure des semaines et des mois qui viennent. Un des grands bonds en avant en informatique actuelle, c'est tout ce qui concerne le social. Donc chez Microsoft, pour le social, vous avez la nouvelle plateforme SharePoint 2013, où là, vous avez une profusion de caractéristiques sociales qui existent. Mais en réalité, Microsoft a aussi racheté récemment Yammer. Il va y avoir un announcement au Tech Day, pas au Tech Day, à la SharePoint Conference à Las Vegas dans 2 ou 3 semaines sur des nouvelles features entre Yammer et le cloud. Ça, c'est des choses qui vont apparaître, qui vont être disponibles d'ici quelques semaines. Au niveau du social, beaucoup de choses arrivent, par exemple la connexion entre un système SharePoint et puis Facebook et des choses comme ça. Toutes ces choses-là, maintenant, sont très faciles à implémenter au niveau des applications de Microsoft. Et on ira toujours plus dans la partie sociale. Si on regarde bien tout ce qui s'est passé au niveau du nouveau SharePoint, par exemple pour le social, on a une telle profusion de caractéristiques et de possibilités que les clients ils commencent à faire « Oula, si je propose tout ça à mon entreprise, ça va créer des problèmes. » Parce qu'il y a des gens qui vont passer leur vie à faire du social au lieu de travailler sur la tâche principale. Et je l'ai déjà remarqué dans certaines entreprises, c'est arrivé. Et bien entendu, quand on parle du nouvel Office, si on parle aussi d'information, on parle aussi de contrôle. Et là, il faut aussi contrôler les choses, surtout dans les entreprises comme les banques, les assurances, etc. Et donc là, au niveau de la plateforme Office, on a intégré 2 choses qui existent. C'est le data loss de données, c'est-à-dire qu'en fait, on a des nouvelles règles, des nouvelles policies sur les produits Office qui évitent, par exemple, d'envoyer des emails avec des numéros de carte de crédit dedans. Donc ça, vous pouvez bloquer directement au niveau de Exchange. Vous pouvez faire des filtres qui permettent de dire, ah, un email qui possède, par exemple, dans un fichier ou dans une image qui a été scannée ou dans le texte, un numéro de carte de crédit, cet email, on peut le bloquer. Ça, c'est des choses qui arrivent de plus en plus maintenant, des demandes très poussées de policy. On a aussi mis en place un protocole qui est connu dans la majorité des entreprises, qui s'appelle e-discovery. Donc ça permet de faire de l'audit sur la plateforme Office de tout ce qui se passe. Entre autres, vous pouvez analyser tous les emails qu'une personne a envoyés, tous les chats qu'elle a fait avec Link, par exemple, ainsi que tous les documents qu'elle a écrits ou qu'elle a lus de SharePoint, etc. Donc ce protocole e-discovery, principalement utilisé pour faire de l'audit de personnes quand il y a quelques potentiels problèmes, est déjà utilisé dans beaucoup d'entreprises. Et là, c'est dans la plateforme Office 2013. Et bien entendu, on a différentes façons de faire du management d'applications, entre autres sous le cloud ou aussi en prémisse. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Si on parle plus en détail des applications telles quelles sur la plateforme, on a la famille, le nouvel Office, c'est le terme marketing qui a été mis en place. On l'accepte, on l'aime, on l'aime pas. Mais vous avez 2 parties. La partie comme précédemment, la partie prémisse, dans laquelle on a les nouveaux produits. Et on va se focuser aujourd'hui principalement sur Office SKU et Project 2013, qui sont les applications sur lesquelles vous pouvez créer des applications on the top de ces produits. L'écran, il est. Donc vous avez la partie prémisse et bien sûr la partie cloud, entre autres avec tous les mêmes produits que vous avez en prémisse, avec certaines limitations, mais c'est exactement le même produit. Et vous avez en plus une nouvelle caractéristique qui s'appelle Office en tant que service ou Office à la demande. Plus, dans la nouvelle plateforme, les produits comme Office 365 ou Visio, Project ou Visio qui arrivent maintenant dans la plateforme online. Quand on voit ce produit-là, on se dit oui, d'accord, ça c'est principalement orienté Microsoft. Moi, j'ai un iOS et je voudrais savoir qu'est-ce que je peux faire au niveau de ce point de vue-là. Donc, au niveau d'iOS, Microsoft est aussi en train de travailler. Entre autres, vous avez déjà OneNote pour toutes les plateformes. Donc, ça, c'est un premier step. Vous avez aussi des nouvelles informations qui seront communiquées au SharePoint Conference sur d'autres produits Microsoft pour les plateformes Android et iOS. Donc, là, il faut attendre encore quelques semaines. Je n'ai pas le droit de le dire pour l'instant. Et bien entendu, pour le moment, si c'est aujourd'hui, vous avez besoin par exemple, de travailler sur un document Word avec une plateforme non Microsoft, vous avez ce qu'on appelle Office Web App. L'abréviation s'appelle WAC. Donc Office Web App fonctionne sur tous les types de mobiles. Ça supporte le HTML5. Donc bien sûr, on a les téléphones Microsoft, on a les autres téléphones, etc. Donc on peut utiliser l'application. Et bien sûr, bien que sur la surface RT, il y a déjà Office, on peut aussi utiliser Office Web App en plus de ce qu'il y a déjà au niveau d'Office. Donc ça, c'est les possibilités de travailler avec les devices sur la nouvelle plateforme Office. On target en tant que Microsoft autant que devices que possible. C'est ce qu'on essaie de faire de plus en plus. Et vous allez voir dans les semaines à venir, les mois à venir, vous aurez beaucoup d'informations qui vont arriver sur toute cette famille de devices et comment travailler avec les produits Microsoft. Maintenant, on rentre dans le vif du sujet, c'est-à-dire tout ce qui concerne les apps. Donc les apps pour Office, il y en a deux types principalement. Il y a celle pour l'Office Client et celle pour le SharePoint. Ces applications, quand on parle d'Office Apps, elles sont pour la plupart développées en HTML5 et en CSS et en JavaScript. Donc pour les personnes qui viennent du domaine .NET, pur .NET, développeur .NET à fond la caisse, malheureusement, il va falloir un peu se former sur HTML5, CSS et JavaScript. Lentement, la partie .NET, on faisait que du code .NET ou du XAML avec du .NET derrière, va lentement switcher vers HTML5, CSS et JavaScript. Pourquoi? Pour supporter tous les devices. C'est le qu'on appelle en français le PPCM, le plus petit commun multiple, pour supporter tous les types de devices. Donc ça, c'est un premier fait. Donc là, que ce soit une application SharePoint que vous allez développer on the top de SharePoint ou une application Office Client, on est dans ce type de langage. Ces clients vont tous aussi fonctionner au niveau du cloud. C'est-à-dire quand vous développez une application Office Client, tant que vous respectez le HTML5 et le JavaScript, normalement cette application va fonctionner sur le cloud. Il y a certaines restrictions dans le cloud, dont je vais vous informer tout à l'heure, où vous avez certaines applications qui ne peuvent pas tourner dans le cloud, mais non, la plupart peuvent le faire. Et ce qui est important aussi, c'est que quand vous créez une application en tant que partenaire ou d'entreprise, vous pouvez poster cette application sur le Office Store. Donc c'est le même principe de store que le Windows 8 Store, vous avez vos applications pour Windows 8, mais là c'est pour tout ce qui concerne les produits Office, c'est-à-dire Word, Outlook, Excel, SharePoint. Donc ça c'est les informations que vous pouvez stocker sur le store. Et normalement, vous avez potentiellement 1 milliard d'utilisateurs de Office qui pourraient télécharger votre application. Donc si on calcule bien, si demain vous faites tous une application, dans un an, quand vous revenez, vous êtes tous millionnaires, à peu près. Donc ça, ce serait le but. Et bien sûr, il y a différents tools pour développer les applications. Vous avez un tool qui s'appelle Napa pour développer des applications sur le cloud. Et vous avez le tools classique, entre guillemets, Visual Studio 2012, qui permettent de développer des applications avec des templates prédigérés qui vous permettent de vous simplifier la vie. Et bien sûr, pour les fans, vous avez aussi Notepad. Mais ça, c'est pour les vrais fans. Si on regarde le type d'application, actuellement dans la partie Office Client, on ne peut pas développer tous les types d'applications du point de vue apps. Alors je sais qu'en 2010, 2007 et 2003, on avait ce qu'on appelait les add-ins en .NET. Ces add-ins existent toujours. On peut toujours créer des add-ins en .NET pour Office 2013. Mais ce n'est pas le principe d'apps qui est créé avec HTML. Et quand on parle de principe apps, on a certaines limitations. Allô? Donc c'est les limitations, c'est déjà qu'est-ce qu'on peut faire avec une apps. En fonction de l'application Office que vous voulez utiliser pour créer une apps, il y a différentes possibilités. Tout ce qui concerne Word, Excel et Project, on peut créer des apps qui tiennent dans le task pane. Donc en HTML5, CSS, JavaScript, on peut créer des apps qui tiennent dans le task pane. Tout ce qui concerne Excel et Excel Web Application, on peut créer des applications en HTML qui vont influer sur le contenu du document. C'est-à-dire, par exemple, on peut intégrer dans un document une carte. Cette carte, c'est une application. Ça, c'est un exemple qu'on voit le plus souvent. Donc ça, c'est au niveau d'Excel et de Excel Web Application, donc de Office 365. Et au niveau de toutes les applications qui concernent Exchange, ou si vous préférez Outlook, on peut créer des applications qui targetent les messages, aussi bien dans Outlook le client fat client, comme on appelle en anglais, ou bien l'Office Web App. Donc ça, c'est les trois types d'applications qu'on peut développer sur ces produits Office. Tous les autres, c'est-à-dire OneNote par exemple, PowerPoint, on ne peut pour le moment pas développer d'application par-dessus du point de vue apps, c'est-à-dire en HTML et en CSS. On peut toujours faire des add-ins en .NET, mais pas encore d'apps du point de vue HTML. Donc ça, pour l'instant, c'est la restriction. On est limité à ces trois produits Word, Excel, quatre produits Word, Excel, Project et Outlook. Donc là, c'est une information importante. Après, du point de vue des apps, pourquoi développer une apps? Il y a différents types de scénarios pour développer une apps. Entre autres, on a tout ce qui concerne déjà les applications Office au niveau des cartes, introduire des vidéos dans les documents, rajouter des informations d'analyse, intégrer des workflows dans des apps. Toutes ces choses-là au niveau de plateforme sont possibles au niveau d'Office. Ensuite, au niveau des documents, on peut rajouter des apps avec des templates de documents. Je vous montrerai après un exemple dans la démo où vous pouvez rajouter directement un template et l'apps ensemble dans Excel. Donc vous n'êtes pas obligé d'avoir seulement une apps qui fait quelque chose, mais vous pouvez livrer le template avec. Ensuite, vous pouvez créer des dashboards. On a de plus en plus d'applications qui arrivent sur le marché, entre autres dans l'App Store, qui vous permettent de faire des analyses d'informations sous Excel. Donc analyser les chiffres, rajouter des graphiques qui n'existent pas dans Excel par défaut, etc. Donc ça, c'est des choses qu'on peut rajouter par des apps. Et bien sûr, au niveau des apps, on a la partie SharePoint où on peut stocker des apps pour SharePoint, mais on peut aussi stocker des apps pour Office. C'est-à-dire quand on crée une app, on a la possibilité de la stocker au niveau de Microsoft App Store. Ça, c'est pour les apps entre guillemets publiques. Et on peut faire un store au niveau de SharePoint pour l'entreprise. Et on peut stocker les apps dans l'entreprise du point de vue SharePoint. Donc ça, c'est deux endroits où on peut stocker ces applications que vous développez. Et beaucoup d'entreprises vont aller sûrement dans la direction d'avoir un site SharePoint pour stocker leurs apps. Et ils vont mettre toutes leurs apps qu'ils fournissent aux employés au niveau de ce store et pas le store de Microsoft. Donc ça, c'est des choses que vous pouvez faire. Et bien entendu, quand vous créez des apps, pour les personnes qui veulent faire de l'argent, donc ça, c'est le process high level, comment ça marche. Tout d'abord, il faut avoir une idée. Donc ça, c'est le plus difficile, à mon avis. Trouver une app qui n'existe pas encore. J'en ai trouvé deux, trois qui sont très intéressantes, comme faire des blue screens ou des crashs dans les applications. C'est des apps qui existent. J'en ai vu une sur Windows 8 qui est pas mal, qui fait tous les blue screens de tous les OS de Microsoft depuis des années. C'est pour les fans de blue screen. Donc une fois que vous avez une idée, il faut la développer donc avec les tools. Donc vous utilisez différents tools, soit Visual Studio, soit Napa si c'est une application Office 365. Et ensuite, une fois que vous avez créé cette app, si vous voulez la stocker au niveau de MS Market, il y a un process d'analyse. C'est-à-dire que là, on contrôle l'app au point de vue Microsoft avant qu'elle soit publiée sur le MS Market, sur le Office Store. Pourquoi? On évite chez Microsoft des apps qui pourraient avoir des problèmes politiques, des apps qui ne fonctionnent pas bien parce qu'elles sont mal développées. Ça, c'est des choses qu'on analyse. Donc, souvent, c'est analysé par ordinateur en partie, voire par certaines personnes qui vérifient ce que fait l'app. Donc, ça, c'est des choses qui sont faites avant que votre app soit publiée. Une fois que ça passe ce step, l'app est publiée au niveau du store. Donc, là, il y a déjà à peu près environ 400-500 apps pour Office, donc SharePoint, Excel, Word, etc. Pour le moment, elles vont grandir. Pour l'instant, le produit n'est pas encore vraiment disponible, c'est pour ça. Et une fois que l'app est disponible, si une personne veut utiliser cette app, elle a deux moyens. Soit elle la télécharge directement de l'Office Store, soit une entreprise, elle peut télécharger cette app sur son SharePoint Store. Okay. Si c'est une app payante, elle peut acheter une certaine quantité de licences et SharePoint manage ses licences. Donc vous savez exactement combien de licences vous avez acheté et qui a déjà installé cette app. Et une fois que cette app est utilisée, donc la personne qui a créé l'app a vendu une certaine quantité de licences, c'est stocké au niveau de SharePoint dans l'entreprise. L'app est installée et utilisée par les gens. Ça peut être une app SharePoint ou une app Office, peu importe, on les stocke au même endroit. Et à la fin du compte, il y a un compte rendu qui peut être envoyé au niveau du marketplace, avec bien sûr aussi, s'il y a une mise à jour, on peut mettre à jour l'app dans l'App Store de SharePoint. Donc ça, c'est le process high level, comment faire de l'argent avec les apps. Si on veut publier des apps au niveau de l'App Store de Office. Si on ne veut pas publier d'apps au niveau de l'App Store de Office, on peut directement créer l'apps et la mettre dans une plateforme SharePoint. Ça, c'est une possibilité qui existe aussi. Donc là, au niveau des apps, comme dit, c'est tout ce qui est HTML. Donc ce que je vais vous montrer maintenant, c'est quelques démos au niveau de Office 2013 qui utilisent quelques apps. Donc si on prend, on va commencer par exemple par Excel. Donc une apps, où est-ce qu'on l'installe? On fait insert apps. Et donc là, toutes les apps que vous avez installées se retrouvent disponibles ici. Donc ça, ce sont des apps HTML5. Si maintenant je prends un exemple d'une apps, je prends par exemple la Bing Map, ça c'est la plus courante, c'est la première apps qui a été développée et qui a été mise sur le store par Microsoft. Donc bien sûr, ça c'est une apps qui requiert Internet, donc si on n'a pas de connexion Internet, marche pas. Là, ma connexion Internet, j'espère qu'elle va fonctionner. Ça devrait. Donc cette application, normalement, utilise directement Bing Map en arrière-plan, qui permet après de faire ce qu'on appelle des push-pins. Donc si je prends des informations. Ah, bah tiens, c'est pas sur ce truc. Allô, allô. Bon, l'app, c'est là. Ça s'appelle le Demo Effect, bien entendu. Je vais essayer de voir dans un. C'est bien, c'est pas rapide. Hein. Alors, je vais prendre ça. Je vais essayer avec ça. J'ai pris un autre fichier Excel pour voir si ça. Faut pas que ça coupe, hein, sinon je perds toutes mes connexions. Je vais réessayer avec cette feuille Excel. Peut-être ça marchera mieux en la relançant. Voilà. Magique. Donc, si je prends cette apps, par exemple, et je veux sélectionner des states, je sélectionne des states, je clique là, automatiquement l'apps, qui est un ajout à Excel, communique avec la feuille Excel et permet de rajouter des informations sur la carte. Alors on peut prendre des adresses, je ne sais même pas si ça marche directement l'adresse comme ça. On peut essayer, je pense pas. Hein. Ah si, même. Ah, il ne connaît pas tous. Mais bon, donc on peut directement intégrer de Excel dans une apps des informations. Alors là, c'est une apps qui permet d'avoir des cartes, mais on peut avoir des apps qui permettent d'avoir, par exemple, une jauge d'informations. Alors si j'ai des chiffres, là j'ai pas de chiffres. On va prendre la feuille Excel que j'avais tout à l'heure. Il y a des chiffres plus intéressants peut-être pour l'apps. Donc si maintenant je prends par exemple ce chiffre-là et que je veux faire une jauge, donc ça c'est une apps qui est aussi disconnectée, c'est bien. Donc là par exemple, on peut avoir une apps qui va directement prendre les informations que je souhaite dans la table et on peut, c'est un peu petit, mais on peut se faire des nouveaux graphiques qui ne sont pas forcément disponibles dans Excel par défaut. Donc ça, c'est des apps. Celles-ci, elles sont toutes gratuites que j'utilise. Il y en a d'autres qui sont payantes, qui sont beaucoup plus complexes que ça. Donc ça, c'est des petites choses qui sont intéressantes avec les apps. Bien sûr, il y a des choses très intéressantes, des apps qui sont uniquement utilisées là temporairement. Par exemple, si je prends cette apps-là qui fournit non seulement un template, mais en plus une apps, ça nous permet de voir directement ce qui se passe aux États-Unis en live. Donc savoir qui va sortir comme président. Donc ça, c'est une apps qui permet aussi en temps réel, de voir les informations qui sont disponibles. Donc, ce qu'on a derrière, en fait, c'est une apps qui est un produit HTML qui se connecte via Web Services à un système, une base de données, etc., qui récupère les données et qui les affiche dans Excel. Donc, ça, c'est ce qu'il y a derrière en arrière-plan. Donc, la personne a créé l'accès à un Web Services via HTML et JavaScript pour afficher les informations. Cette apps-là fonctionne sur toutes les versions d'Excel, c'est-à-dire aussi bien la version RT que la version client, que la version que vous trouvez sur le cloud. Donc ça, c'est des petites choses qui sont très intéressantes. Donc ça, c'était quelques apps qui sont disponibles. Bien sûr, Excel a beaucoup plus de caractéristiques que ça. Si je prends par exemple, on va supprimer là, on va supprimer les apps. Je vais prendre une nouvelle feuille Excel. Tiens, c'est pas mal. On va vite prendre une feuille Excel que je vais vous montrer si j'en ai une de nouveau là. Allô, allô. J'ai montré quelques caractéristiques d'Excel qui sont intéressantes. On peut le faire ici. Par exemple, ici, j'ai un nom et un prénom. Donc, si je rajoute une colonne, par exemple, et que dans Excel, je veux avoir un alias quelconque. Donc, maintenant, si je veux faire une concaténation du nom et du prénom avec une certaine limitation, par exemple, ici, je veux apprendre le nom complet et les deux premiers caractères du prénom. Si je veux faire ça avec Excel 2010, La formule, elle est un peu complexe. Si maintenant, je vais là et je tape Albert, il a fini pour moi. Donc ça s'appelle le flash field sur Excel. Donc automatiquement, il essaie de deviner ce que vous essayez de faire avec les cellules Excel. Alors ça, c'est par exemple les concaténations de nom et de prénom, ou d'une partie du prénom et le nom. Bien sûr, on peut séparer par exemple les adresses en morceaux ici, on peut rajouter des informations, on peut concaténer des colonnes, etc. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une des nouvelles features de Excel, qui s'appelle le flash fill. Bien sûr, il y en a plein d'autres comme ça dans cette caractéristique-là en 2013. En 2013, les apps, plus des caractéristiques de ce niveau-là. Donc ça, c'est des petites choses qui existent. Au niveau de Word, c'est le même principe. Au niveau de Word, il y a pas mal de nouvelles fonctionnalités. Entre autres, une que j'aime bien, c'est que je peux directement ouvrir un PDF avec Word. Donc, je perds normalement pas du tout le format du PDF. Donc, ça, c'est des petites choses intéressantes. Je peux retravailler mon PDF si j'ai plus l'original. Au niveau du document. Alors, ce qui est intéressant aussi avec les apps, c'est que, bon, comme dit, je ne suis pas spécialiste en HTML, je ne sais même pas ce que ça veut dire. Donc, comme je ne sais pas ce que ça veut dire, j'ai installé une app qui s'appelle Abréviation. Donc là, il faut bien sûr que je me reconnaisse parce que j'ai été déconnecté tout à l'heure. Et normalement, cette app, dès qu'elle s'est connectée à Internet, va m'afficher au niveau des abréviations ce que signifie HTML, en espérant qu'elle trouve. Donc, pour ceux qui savent, tant mieux. Mais il n'y a pas qu'une seule version de HTML ou une seule signification. Ça vient, l'Internet, il est un peu. Il suffit de patienter. Voilà, donc là, directement, grâce à une app, je peux avoir des informations sur les abréviations. Là, je prends des abréviations simples, bien sûr, mais je peux avoir des abréviations plus complexes. Donc là, voilà, donc CSS. Alors, il y a plusieurs significations. Il y en a même 73 autres que l'on ne voit pas. Et qui se connecte directement à un site, d'où l'application va chercher ces informations. Donc là, on a un site internet qui s'appelle abréviation.com et il va chercher toutes les informations au niveau de CSS. Donc ça, c'est des choses que vous pouvez créer, des nouveaux scénarios que vous pouvez faire avec votre entreprise ou pour les entreprises qui vous permettent de créer des applications avec des connexions sur des produits, sur des web services, télécharger des informations pour intégrer dans des produits comme Outlook pour un email, par exemple. Word, Excel, etc. Donc ça, c'est des petites choses qui vous permettent de travailler plus rapidement au niveau des informations. Et là, on a toutes les significations de CSS, il y en a pas mal, quoi. Donc ça, c'est des petites informations qui existent. Après, bien sûr, il y a toutes les nouvelles caractéristiques de Word, de Office, etc. Par exemple, dans PowerPoint, vous voyez, là, je n'ai pas démarré le slide. Quand vous voyez ce slide, par exemple, qui va venir tout de suite, là, j'espère. Donc quand vous voyez ce slide, moi je vois autre chose. Alors qu'est-ce que je vois? Ben, je vous le montre rapidement. Moi je vois ça. C'est-à-dire que moi je vois le slide courant plus les notes plus le prochain slide. Ça s'appelle la Presenter View. Ça existait déjà en 2010. Ça a été vachement amélioré en 2013. Entre autres, par exemple, je peux très facilement switcher d'un slide à l'autre. Si je vois ma mousse, c'est pour ça qu'il faut que je recule en arrière. Par exemple. L'information typique, c'est que je suis en train de discuter avec quelqu'un sur un slide et il me dit oui, j'ai cette question et moi je lui dis bien sûr, c'est le slide, exactement le slide suivant. Et donc je clique directement sur un slide et il croit que c'était le slide suivant. Donc ça, c'est des petits trucs que vous pouvez utiliser dans les présentations ou qui vous permettent à des questions de répondre directement par le dernier slide, alors que c'est pas le dernier. C'est des petits détails qui sont très intéressants. Donc là, je reviens en arrière. Donc ça, c'est des petites fonctionnalités qui sont neuves. Il y en a tout plein, il y en a comme ça, il y en a des dizaines et des dizaines. D'ailleurs, dans l'IT Pro, on en verra beaucoup plus demain. Ensuite, quand vous créez des apps, donc ça, c'est ce qui est important, c'est vous allez créer des apps, vingtaine, dizaine d'apps, vous allez les installer. Et subitement, comme par exemple, j'ai eu le problème tout à l'heure, il y a un problème de performance, etc. Donc là, il y a un moyen de monitorer les apps. Alors, ça existait déjà en partie dans 2010, ça a été amélioré aussi en 2013. C'est-à-dire, on appelle ça la télémétrie. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Donc, si on regarde, donc ça c'est Windows 8 et avec Office 2013 installé dessus. Donc, vous avez deux nouveaux icônes qui ne sont pas affichées sur l'écran principal, mais qui sont dans la liste complète de tout ce qui a été installé quand vous installez Office, qui s'appellent Office 2013 télémétrie et Office 2013 télémétrie log. Ça vous permet de vérifier ce qui se passe au niveau de Office. Donc, vous pouvez par exemple faire une analyse complète de votre PC, tout ce qui concerne Office, pourquoi c'est lent, pourquoi ça ne marche pas. Ça vous permet aussi de faire une analyse de l'entreprise, des offices qui se trouvent dans l'entreprise. Et si je prends, par exemple, mon Windows 8 ici, si je prends l'Excel et j'ai la télémétrie quelque part, l'icône que j'avais mis en place, où est-ce qu'il est maintenant? Voilà, en bas. Donc, par exemple, la log de télémétrie, ça, c'est pour ma machine locale. Donc là, au niveau d'Excel, directement, il télécharge un dashboard. Et ce dashboard me dit tout ce qui se passe, bien ou pas bien. Par exemple, là, j'ai un petit problème avec une apps. Okay. J'essaie de télécharger un document un peu bizarre. Donc ça, c'est des choses qui se passent. Et là, je peux avoir des log files sur ma machine. Donc analyser ce qui se passe au niveau de la machine, savoir exactement quels sont les problèmes, quelles apps fonctionnent bien, quelles apps fonctionnent mal, des informations sur mon système, voir ce que j'ai comme machine, etc. Donc ça, c'est pour la machine locale. Ça s'appelle les telemetry logs. Pour une analyse complète d'entreprise, je peux utiliser une machine dédiée dans le réseau pour analyser les informations de la télémétrie d'une entreprise. Donc là, on utilise derrière aussi SQL. Donc télémétrie dashboard. Donc là, c'est un template qui existe, qui utilise SQL en background pour faire des analyses de réseau. Et donc quand on démarre là, on a la possibilité d'installer tout et de se connecter à une base de données, voir ce qui s'est passé. Donc sur ma machine là, je n'ai pas analysé quoi que ce soit sur l'entreprise, parce que je ne vais pas m'amuser à analyser Microsoft. Mais donc, on peut, en arrière-plan, analyser différentes machines et voir ce qui se passe au niveau de la télémétrie, créer un dashboard avec SQL, SQL Express et une version d'Office. Donc ça, c'est des caractéristiques qui étaient plus difficilement possibles avec Office 2010, qui sont maintenant disponibles avec Office 2013 out of the box. Donc là, ma machine est un peu lente. On ne va pas laisser tourner parce que là, il est en train de se connecter à SQL et je crois que je n'ai plus de mémoire. Donc, c'est pour ça. Donc ça, c'est des petits ajouts, nouvelles fonctionnalités de Office 2013 qui vous permettent de mieux analyser ce qui se passe, surtout quand vous créez des applications, parce que tout le monde ne développe pas parfaitement, malheureusement. Et des fois, il peut y avoir des memory leaks ou des choses comme ça qui vous permettent de voir ce qui se passe au niveau des applications. Donc la télémétrie est utilisée pour plusieurs choses, donc entre autres pour tout ce qui concerne l'analyse des versions d'Office, l'analyse des applications, l'analyse des performances de votre système. Vous avez un dashboard, la télémétrie log, c'est plutôt pour l'analyse locale. Donc ça, c'est des petites choses qui existent. Donc ça, c'est quand on parle d'applications, de création d'applications et d'analyse. Maintenant, comment allons-nous faire une application? Et là, donc, c'est les différentes façons de faire une application. Comment faire une application? Quels tools utiliser? Il y en a deux principalement pour faire une application Office. Le premier, le plus utilisé à mon avis, ou celui qui sera le plus utilisé, c'est Visual Studio 2012. Donc là, c'est le classique, le Visual Studio classique que vous utilisez déjà pour faire d'autres types d'applications. Donc là, vous pouvez créer des applications pour Office, pour SharePoint, directement dans ce tools. L'avantage qu'il a, c'est qu'il intègre directement des informations de tous les templates, le JavaScript, etc., les packaging, tout ça est dans le template. Il existe un autre tools qui s'appelle Napa, qui est disponible sur Office 365. Donc ça, c'est un tools qui vous permet de développer directement dans le cloud et en plus de récupérer votre solution dans Visual Studio par la suite. Donc vous pouvez commencer en utilisant Napa et ensuite continuer en utilisant Visual Studio 2012. Donc Napa, c'est en fait, je vais vous le montrer tout à l'heure dans une démo, c'est rien d'autre qu'une application qui vous permet de faire du développement, qui est hostée dans Office 365, mais il faut se connecter à un Office 365 pour développeurs. Ce n'est pas tout à fait le même compte pour les gens qui ont fait des essais avec Office 365 Technical Preview. C'est un compte un peu différent, c'est une URL un peu différente. Donc, il y a déjà pas mal d'applications qui existent basées sur ça. Et si je vous montre rapidement le Napa. Donc le Napa, il se trouve. Donc là, j'ai créé sur mon cloud un site de développeurs. Donc il y a des templates maintenant dans SharePoint 2013 qui permettent de faire des sites de développeurs pour faire du développement, pour tester des applications. Et en fait, ce qu'il faut, c'est rajouter l'application qui s'appelle Napa. Donc dans les add an app, vous avez différentes applications, dont une que vous pouvez télécharger gratuitement du cloud. J'ai vraiment des problèmes de performance avec Internet aujourd'hui. qui vous permettent de télécharger l'application NAPA et donc d'utiliser ça pour faire du développement. On va essayer de rafraîchir ma page. Ça a marché. On va revenir en arrière. Juste un instant parce que j'ai eu quelques petits problèmes de performance là. Donc quand vous installez l'application NAPA, tout après vous pouvez utiliser ces icônes pour créer une application. Donc là, l'environnement de développement, c'est directement le web par défaut. Donc après, c'est une affaire de goût. Donc vous pouvez créer un nouveau projet. Quand vous créez un nouveau projet dans NAPA, vous pouvez créer une application pour SharePoint, une application pour les task pane, donc des produits disponibles, c'est-à-dire Excel et Word, une application pour le contenu, donc là principalement Excel, et une application pour les emails. Donc ça, c'est ce qu'on peut créer avec NAPA. On ne peut pas créer d'application pour Outlook de ce point de vue-là. Donc si on crée une application de ce point de vue-là, on fait create et après on tombe dans l'environnement. Donc on reste dans le browser, on ne sort pas du browser et on a toutes les informations. Donc pour les fans de HTML, on peut directement étendre cet HTML à ce que vous voulez faire. On peut faire aussi du copy-paste de ce que vous utilisez ailleurs. Donc ça, c'est la possibilité des images, du content, toutes ces choses-là. Et ce qui est intéressant en dessous, on peut directement ouvrir la solution dans Visual Studio 2012. Donc là, je n'ai pas Visual Studio 2012 sur mon PC de travail, mais on pourrait directement ouvrir la solution. Et continuer à travailler, faire un packaging pour l'utiliser, non pas seulement dans le cloud, mais aussi dans l'entreprise, par exemple. Parce que là, vous commencez dans le cloud, vous pouvez directement faire tout dans le cloud, et après, vous avez besoin de cette application pour l'entreprise, vous récupérez tout ça dans le produit Visual Studio et vous l'utilisez. Donc ça, bien sûr, c'est des applications out of the box, c'est la plupart du temps du Hello World. Donc là, ce n'est pas très relevant au niveau de la faisabilité. Donc ça, c'est une façon, n'a pas de faire du code. L'autre, bien sûr, c'est tout ce qui concerne Visual Studio. Donc quand on regarde Visual Studio 2012, c'est là où il faut voir la distinction entre les applications pour Office, c'est-à-dire pour SharePoint et Office 2013, ou les add-ins. Donc les add-ins, c'est le même principe qu'en 2010, 2007, 2003, c'est-à-dire c'est des add-ins en .NET que vous déployez après sur votre plateforme. Et avec lesquels vous pouvez pratiquement tout faire au niveau de Office. Connecter très facilement des web services, interagir avec le contenu des documents. Donc ça, c'est des applications add-in. Par contre, ces applications-là ne fonctionnent pour la plupart pas dans Windows 8 RT. Parce que vous attaquez des couches basses du système qui pas forcément sont disponibles au niveau de RT. Par contre, les apps, quand vous créez une app pour Office par exemple, okay. Après, vous avez le choix d'avoir différents types d'apps. Vous pouvez utiliser l'apps pour faire du Excel, du Word, du Project. Vous pouvez utiliser les trois. Donc, c'est un task pane qui va fonctionner avec les trois. Dans ce cas-là, il faudra mettre du code derrière qui permet une fois de target Excel, une fois PowerPoint, une fois Project et une fois Word. Vous pouvez faire une app, par exemple, uniquement pour Word. Okay. Et ensuite, l'application out of the box, elle crée tous les templates qui sont nécessaires. Après, votre imagination, c'est la limite de ce que vous pouvez mettre dans l'application. Et derrière, bien sûr, de nouveau, du HTML, du CSS et du JavaScript. Pas de .NET dans ce cas-là. Bien sûr, on peut se connecter à un web services qui est fait en .NET pour récupérer des informations et les afficher dans l'apps. Donc, si on regarde un peu le design, ça, c'est une apps toute bête qui a uniquement un contrôle, qu'on va un peu l'agrandir. Et quand on fait maintenant. Je suis en plein écran là, non? Quand on fait run, donc il va la compiler. Il va la compiler, il va directement démarrer Office si vous avez Office sur la même machine que votre système de développement. Et donc là, par exemple, je peux faire cette data, je peux récupérer data. Ça, c'est ce qu'il y a dans le code par défaut, c'est un comme un Hello World. Donc ça, c'est des choses qu'on peut faire. Et bien sûr, après, au niveau de cette application Task Pane, vous rajoutez le code que vous voulez. Et vous pouvez intégrer directement avec plein d'intégrations. C'est exactement ce qui est utilisé, par exemple, pour tout ce qui est ce qu'on a vu tout à l'heure avec les abréviations. C'est exactement ce qu'il y a derrière. L'abréviation va attaquer un web services qui récupère les informations et qui les affiche là où il y a le curseur. Donc ça, c'est des choses que vous pouvez faire. Après, la limitation, c'est votre imagination au niveau .NET. au niveau de HTML, ce que vous souhaitez faire. Donc ça, c'est quelques petites fonctionnalités au niveau des apps qu'on va voir de plus en plus au niveau de ces fonctionnalités. Pardon. Donc là, je vais encore vous faire quelques démos au niveau d'Excel, au niveau des possibilités de Excel. Je vais juste fermer toutes mes versions d'Excel là et vous montrer deux, trois petites choses qui sont intéressantes. Ouais, je vais tout sauvegarder chez moi. Allô. Donc si on regarde Excel, entre autres, il y a beaucoup de nouvelles caractéristiques au niveau de BI. Donc, ah, il y a encore celui-là qui est ouvert. On va pas être ouvert celui-là. Allô. Ça. Donc, ce qui est aussi nouveau dans Excel, je ne sais pas si beaucoup l'utilisent, Power Pivot, vous l'utilisez beaucoup, vous connaissez? Donc, Power Pivot, c'est une façon de travailler les données, entre autres, d'analyser les données pour faire des statistiques, etc. Maintenant, il y a un nouveau produit qui sort, qui s'appelle Power View. Donc, Power View, ça permet de faire des dashboards directement de Excel en utilisant des informations de SQL. Donc, Power View, je crois que j'ai un exemple là, je me suis trompé de deux. Donc, Power Pivot et Power View permettent de faire des feuilles SQL de ce genre-là. Donc après, vous pouvez analyser les informations, principalement pour les entreprises, pour les sales, etc. Ils utilisent beaucoup ces possibilités-là pour créer leur propre dashboard basé sur Excel. Donc ça, c'est des extensions de caractéristiques qui existent dans Excel 2013 que beaucoup de sales dans les entreprises utilisent, qui vous permettent de faire des analyses complètes de différentes choses, d'avoir des graphes, d'avoir des informations très rapides au niveau des fonctionnalités, de changer par exemple, faire des analyses très rapides de données et de changer aussi les graphiques au niveau des faisabilités, de revenir en arrière. Donc toutes ces caractéristiques-là sont des nouvelles caractéristiques pour les analyses de données au niveau des dashboards, etc. L'avantage de cette partie Excel, donc avec Power Pivot ou Power View, c'est que vous pouvez la stocker directement dans SharePoint. Donc la rendre disponible pour tous les employés de votre entreprise sans avoir à envoyer des tonnes de mails avec ces documents. Souvent, ces documents-là sont des documents entre 10 et 150 mégaoctets. Donc par exemple, j'ai une analyse Excel avec Power View qui fait plus de 130 mégaoctets en Excel. Donc ça, c'est déjà le gros document Excel. Donc ça, c'est des petites choses que vous pouvez faire, analyser des informations que vous ne pouvez pas forcément faire si vous n'avez pas Power View ou Power Pivot. Parce que les performances de votre système vont être catastrophiques si vous n'avez pas ces tools. Et Power Pivot et Power View utilisent la mémoire. Donc ça, c'est des choses qui existent, des nouveaux add-ins qui sont maintenant intégrés dans Excel, qui avant étaient disponibles par téléchargement. Donc ça, c'est des nouvelles choses qui existent. Donc ça, c'est des petites choses intéressantes. Donc, au niveau de tout ce qui est apps, bien sûr, je veux pas, dans la présentation d'aujourd'hui, je ne veux pas rentrer dans du code, rajouter des tables HTML ou des choses comme ça, parce que ce n'est pas le but. Principalement, ce que je vous conseille de faire, c'est bien sûr, si vous voulez développer des apps, de vous registrer d'abord au niveau du cloud. Il y a des versions gratuites au niveau du cloud qui sont disponibles jusqu'en janvier. Donc là, vous pouvez avoir 25 licences gratuitement jusqu'au 25 janvier. Le cloud a été migré en RTM. Donc tout est disponible au niveau RTM actuellement, au niveau du cloud. Donc je vous conseille de créer un compte développeur et d'utiliser pour commencer par exemple Napa, qui n'est pas très complexe à utiliser comme tools. Après, il faut connaître le HTML, ça c'est un impératif. Et vous pouvez créer votre première application en utilisant tout simplement ces informations-là, donc créer ces choses-là. Et vous pouvez directement publier votre application sur le MS Market. Elle passe par un système d'approval avant, donc c'est clair qu'il faut faire une application qui est aussi un intérêt, et après vous pouvez directement les publier et éventuellement faire de l'argent avec les applications. Donc ça, c'est des petites choses que je voulais vous montrer. Y a-t-il encore des questions au niveau des applications sur SharePoint? Sinon, je vais vous donner quelques URL qui sont très, très intéressantes. Donc vous allez recevoir toutes les présentations, hein, mes collègues sont en train de les télécharger sur un site. Donc vous allez recevoir un URL, vous pouvez tout télécharger. Donc ça, c'est les différentes URL qui sont indispensable pour commencer à faire du développement au niveau de Office 2013 que ce soit bien aussi bien Office SharePoint que Office client. Comme je l'ai dit tout à l'heure aussi, quand on a, je suis désolé pour le ping-pong, quand on utilise SharePoint pour hoster des applications, on a ce type de site. Donc là, vous pouvez télécharger pour votre entreprise des applications. Donc là, par défaut, pour l'instant, elles sont encore toutes dans le store américain. Et donc là, on a toutes les applications qui sont disponibles. Il y en a pas mal, il y en a encore beaucoup, beaucoup plus. Donc ça, c'est des applications qui sont déjà disponibles aussi bien pour Office, pour SharePoint, pour Word, pour Outlook. Elles sont déjà disponibles. Certaines sont gratuites. Et ce qui me surprend beaucoup, du moins positivement, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises suisses qui ont déjà mis des applications disponibles là-dedans. Donc ça, c'est assez étonnant parce que c'est un site mondial et il y a au moins une quinzaine d'applications suisses déjà dedans, alors que d'autres pays n'ont pas du tout très peu d'applications. Donc là, vous avez le store sur lequel vous pouvez rajouter des applications au niveau de SharePoint. Si je reviens en arrière. Ensuite, une fois que vous avez rajouté une application, vous pouvez manager les licences, que ce soit des applications SharePoint ou des applications Office. Vous pouvez manager les licences directement au niveau de ce site. Ce site existe dans le cloud et vous l'avez sur le premise. Donc c'est exactement le même principe. Et en dernier lieu, vous pouvez aussi voir qui a installé quoi, etc. Quelles sont les licences qui ont été achetées, combien d'informations ont été achetées. Vous pouvez faire des reports aussi par-dessus. Donc ça, c'est des applications que j'ai installées, par exemple, sur mon SharePoint. Ici, quelques applications qui sont le même principe, développées en HTML. Par exemple, Nintex a fait une application de démo pour voir les workflows au niveau de SharePoint. Donc tout ça a été créé en HTML5. Ça, c'est des petites choses que vous pouvez créer. Après, c'est qu'une question d'imagination. Donc voilà, ça, c'était environ ce que j'avais à préciser aujourd'hui au niveau des applications. Je ne voulais pas rentrer dans le code parce qu'on ne m'a pas demandé de rentrer dans le code aujourd'hui. Ce que je vous demande aussi, c'est de ne pas oublier de rentrer le feedback pour toutes les sessions que vous avez vues. C'est ce qui m'a été demandé. Y a-t-il encore des questions ou y a-t-il des questions? Oui. Ah, alors problème pour la débloquer, une application, du point de vue application en HTML, il faut un SharePoint site pour le faire. Ah, vous pouvez juste déployer par rapport au Visual Studio, vous pouvez déployer sur une machine. Mais c'est une machine de test. Sinon, c'est pas le même principe qu'un add-in. C'est sur le web. Donc il faut un site web quelque part. Alors bien sûr, on peut. Oui. Ce qu'on peut faire aussi. Entre autres, c'est d'avoir un site web sur Azure. Azure. Okay, pour avoir un site là-bas. Et là-bas, on peut stocker les applications pour l'entreprise. Donc, on peut créer son site Azure. Et on n'a pas besoin de SharePoint. Pour créer son site Azure, stocker l'application là-bas. Et quand on veut utiliser cette application, on va la télécharger des Azure. Ça, c'est une autre solution. Oui? Ça, c'est une bonne question. À mon avis, là, je ne suis pas 100% sûr, mais à mon avis, il faut SharePoint Server. Parce que c'est un template. L'app, c'est un template de SharePoint, ce que vous avez vu tout à l'heure. Mais je vais vérifier parce que pour être sûr. Okay. D'autres questions? Donc, demain, vous commencez tous des apps pour Office. Et la semaine prochaine, vous êtes tous millionnaires, c'est ça? Bon, là, comme dit, l'inconvénient, surtout pour les gens qui ont fait beaucoup de .NET, c'est qu'il faut apprendre l'HTML5. Ça, beaucoup de développeurs de .NET n'ont pas fait ce step pour le moment et devront le faire. Tout devient HTML5, tout. C'est-à-dire que ce que vous développez sur l'environnement ex-métro, c'est du HTML5. On peut faire aussi du XAML, mais c'est du HTML5. Office, les apps Office, c'est de l'HTML5. Les apps SharePoint, c'est du HTML5. Les apps pour d'autres plateformes, que Microsoft, ça sera du HTML5. Donc voilà, donc ça c'est tout ce qu'il faut maintenant se diriger vers. Ben sur ce, ben je vous remercie dans ce cas-là. Je suis encore là disponible jusqu'à 6h moins quart. Si vous avez d'autres questions, je suis disponible. Je vous remercie beaucoup.